Mais en fait, aujourd'hui, notre produit revêt tellement de fonctionnalités et tellement de possibilités que si tu te mets à dérouler une liste exhaustive de fonctionnalités, tu vas juste te faire comparer à ton concurrent et potentiellement tu vas être moins bon à la fin. Donc en fait, pour avoir le bon message.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello, aujourd'hui, je suis avec Camille Sampou, directrice commerciale de chez Payplug. Hello Camille, comment tu vas?
Ben, super bien, ravie d'être là.
Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai invitée parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier où la vente est de plus en plus difficile, demande de plus en plus de méthodes. Je sais que chez Payplug, vous êtes très méthodologique. En off, on a pu mentionner notamment pour toi l'importance d'avoir un playbook de vente pour une équipe commerciale solide. Et voilà, l'idée, c'est que j'aimerais qu'on parle de ça à l'aune de ton expérience, grande expérience sales que tu as présentée et aussi de ce que tu fais actuellement chez Payplug. Donc du coup, justement, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton background?
Yes, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Camille Sampou. Donc, je suis effectivement directrice commerciale chez Payplug. J'ai le plaisir de m'occuper d'une quinzaine de commerciaux de différents niveaux et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir depuis un an et demi à peu près. Et moi, ça fait 8 ans que je bosse dans l'informatique. Alors au sens très large du terme, je suis passée par différents éditeurs. Je suis jamais passée par la case service, toujours la case vente de logiciels, SaaS, B2B, alors dans la data, dans la business intelligence, dans la base de données, dans des structures très différentes. C'est, je pense, ce qui m'a permis de me former assez rapidement, de passer de la start-up à la grosse boîte américaine cotée en bourse et du coup diffuser une multitude de ressources pour m'en servir aujourd'hui et essayer d'animer au mieux les équipes dont j'ai le plaisir de m'occuper. Pour la petite anecdote marrante, moi, il y a 10 ans, je vendais du vin. Donc, j'ai toujours eu effectivement une carrière commerciale. Par contre, j'ai beau bosser dans la tech, avoir bossé dans des boîtes assez pointues, techniquement parlant, dans leur domaine. C'est des choses que j'ai vraiment appris sur le tard, au fil des rencontres, des expériences que j'ai pu avoir, avant de réellement me créer un CV dans la tech et dans le SaaS B2B.
Trop cool. Du coup, en fait, justement, tu m'avais mentionné que pour toi, aujourd'hui, l'important quand on manage une équipe ou pour atteindre ses objectifs, il faut un playbook de vente solide. C'est quoi pour toi un bon playbook? D'ailleurs, est-ce que déjà tu peux un peu définir le playbook pour ceux effectivement qui seraient novices?
Ouais, bah pour moi, le playbook, c'est un peu la bible du commercial. Ça fait une super transition avec ce que j'ai raconté juste avant, mon petit fun fact. Avoir un playbook, c'est avoir la capacité d'avoir une ressource qui va être notre point d'ancrage et notre relais à chaque étape de la phase de vente et de cycle de vie d'un commercial. Donc un bon playbook, c'est avoir une méthodologie qui s'applique à n'importe quel cycle de vente. Qu'on se parle de prospection, qu'on se parle de faire avancer un deal au fil des différentes étapes ou qu'on se parle de closing. Donc finalement, pour moi, le playbook, il est intrinsèquement lié à la méthodologie. Il y en existe des dizaines sur le marché. L'important, c'est de choisir la méthodologie qui nous convient et qui correspond à la vente qu'on va effectuer dans l'entreprise dans laquelle on est. Et un bon playbook, c'est surtout un playbook qui est évolutif. En fait, moi, le playbook commercial que j'ai aujourd'hui, que je mets à disposition de mes équipes, c'est pas le même qu'il y a 6 mois, c'est pas le même qu'il y a 1 an, c'est pas le même qu'il y a 1 an et demi, et c'est encore moins le même que celui que j'avais pour moi en tant que sales il y a 5 ou 6 ans. Parce que un playbook évolutif, il s'enrichit au fil des discussions avec des prospects, au fil des closings, au fil des deals qu'on a perdus aussi. C'est hyper important de se remettre en question en permanence et toujours en faisant le lien avec une méthodologie qui est un petit peu le phare, j'ai envie de dire, au milieu de la tempête et auquel on vient y apposer ses expériences, que ce soit à la fois des succès ou à la fois des échecs. Et donc c'est vraiment pour moi un document qui est écrit. Je crois beaucoup à la culture de l'écrit. Alors parce que je suis passée par des boîtes qui m'ont un peu formatée aussi comme ça, mais ouais. Je crois beaucoup à la culture de l'écrit pour pouvoir se transmettre et qui plus est aujourd'hui quand on est dans des startups en début de phase ou dans des boîtes qui grossissent ou dans des boîtes qui sont très grosses, c'est hyper important que tout le monde parle le même langage. Le playbook, c'est aussi un peu le dictionnaire et le traducteur des équipes commerciales entre elles, et je parle des équipes commerciales étendues, des partenariats, des avant-ventes techniques, de toutes les personnes qu'on va pouvoir activer au service de la vente et au service d'un marchand. Donc ouais, pour moi, le playbook, c'est choisir une méthodologie, s'y tenir et donc y associer de la rigueur. Un bon playbook, il est forcément évolutif. Et un bon playbook, c'est vraiment un langage commun avec les équipes commerciales étendues qui permet aux différentes parties prenantes d'un deal de communiquer les unes avec les autres et de se comprendre et de parler le même langage.
Ok, quelle définition, on n'aurait pas pu faire mieux, bravo, génial, c'était canon. Du coup, on va partir du début, puisque effectivement, tu l'as dit, effectivement, un playbook, c'est une méthodologie. La vente, ça commence par la prospection. Dans ta méthodo, du coup, comment tu fais pour booker des bons rendez-vous? Quand je dis des bons rendez-vous, c'est des, c'est des deals avec du coup des, enfin votre cible principale qui se signe vite, qui se signe bien, et puis quand ils signent, effectivement, que ce soit des clients qui soient contents.
Ouais, hyper intéressant comme question. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous chez Payplug, on est dans une industrie qui est très très compétitive parce qu'on vend une solution de paiement. Je pense qu'on a tous entendu parler de plein de solutions de paiement ces 5 dernières années sur le marché. Il y a des nouvelles boîtes qui émergent tous les jours, il y en a d'autres qui meurent aussi tous les jours. Donc il faut être hyper agile et hyper assertif dans la manière dont on va adresser les prospects. Donc forcément, prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous. Je peux sortir des listings de 500 directeurs e-commerce et les mettre à disposition des SDR et prendre 15 rendez-vous, mais il va rien se passer derrière. Nous, ce qui est important, c'est évidemment le persona. Donc je te citais les directeurs e-commerce, mais on parle aussi à des directeurs financiers et des directeurs retail. Or, ces trois personas, ça, et voir des dirigeants d'entreprise quand on est sur des structures plus petites, or ces trois personas, aller prendre rendez-vous, je sais pas, avec un chef de projet informatique, il sera probablement ravi de parler de sa stack et de voir dans quelle mesure Payplug peut s'y intégrer. Est-ce que ça a du sens pour nous? Non. Donc, t'as un premier sujet qui est le persona. T'as un deuxième sujet qui est le besoin. Alors, on entend souvent en vente, le boulot du commercial, c'est de créer le besoin. Eh oui, mais pas que. L'idée, c'est d'avoir des boîtes qui sont quand même à l'écoute du changement, qui ont un vrai enjeu de transformation digitale, de conversion. Alors, nous, ça se traduit par ce qu'on appelle le taux d'acceptation, mais peu importe, il peut y avoir plein d'indicateurs. C'est vraiment d'avoir un minimum d'informations sur un potentiel besoin et donc sur l'écosystème du client. Et donc ça veut dire sourcing et préqualification. Alors évidemment, ça passe par des outils comme SimilarWeb, comme Mixdata, comme LinkedIn Navigator. Encore une fois, il y en existe des tas sur le marché et chacun choisit les bons en fonction de son industrie. Mais ça veut dire qu'il faut se renseigner sur les organisations qu'on va contacter dans le but de prendre des rendez-vous. Ça, pour moi, c'est hyper important, qui plus est quand tu es dans des environnements techniques, parce que tu as forcément des sujets de compatibilité technologique d'un outil par rapport à un autre. Moi, je vais pas pouvoir m'installer sur n'importe quel site e-commerce, il y a des prérequis à l'entrée. Donc, il faut vraiment analyser ça en amont pour être sûr que le rendez-vous que je prends, bah, il va être compatible avec la création d'un deal.
Du coup, les critères aujourd'hui, parce que tu disais effectivement ton playbook, il est évolutif, il n'est pas le même qu'il y a 6 mois. Tes critères, tu les mets à jour tout le temps. Tu as des critères qui sont fixes. Est-ce que tu arrives à tous les trouver? Quand tu les trouves pas, comment t'essaies de te débrouiller?
Non, c'est une super question. Alors franchement, je pense pas avoir la science infuse d'une personne dans notre organisation. Du coup, je suis sûre qu'on passe encore à côté de tas de choses. Mais par contre, ouais, l'idée, c'est d'essayer d'enrichir au maximum. Donc je sais que moi, à chaque fois qu'il y a un deal un peu stratégique ou pertinent qu'on a gagné ou qu'on a perdu, il y a un retour d'expérience qui est fait en séance. Donc, c'est des formats qui sont une fois tous les mois avec le sales et la vente qui ont participé et qui ont contribué à ce deal pour le présenter au sein de l'organisation et des équipes commerciales étendues. C'est enregistré et moi, c'est ce qui me sert de base pour venir enrichir mes fiches de qualif que ensuite je mets à disposition des différents commerciaux. Évidemment, on décèle des nouveaux personas à l'intérieur des personas principaux qu'on a l'habitude de travailler de manière hyper régulière. Tu vois, nous, on parle beaucoup d'omnicanalité. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui existe. T'es responsable omnicanalité et expérience client. Ce personnage, je l'avais pas dans mon playbook omnicanalité il y a encore 4 mois et demi, 5 mois. Et ça, comment je m'en suis aperçue? Je m'en suis aperçue parce que j'ai eu cet interlocuteur sur un deal. Et en fait, j'ai fait mes recherches et je me suis aperçue qu'il y avait à peu près 500 personnes en France dans des entreprises retail qui avaient cet intitulé-là. Donc ouais, c'est de la recherche et de la mise à jour permanente à laquelle il faut s'astreindre. Donc c'est vraiment de la rigueur, de la fluidification et de la répétition. Parce que moi, là, je t'en parle avec beaucoup de fluidité, de simplicité et tout ce que tu veux. La réalité, c'est qu'il faut le répéter pour le mettre à disposition de l'exécution. Alors, c'est un peu barbare et scolaire dit comme ça, mais la répétition et l'exécution, je pense que c'est un peu les clés de la prospection, le tout associé à un peu de prise de recul et de regarder ce qui se passe sur le marché et l'enrichissement de tes fiches de qualif et donc du playbook qui est associé.
En fait, aujourd'hui, tu as évidemment tes critères un peu basiques de ce qui est un bon deal ou ce qui est un bon prospect, en tout cas pour Payplug. Des critères, en fait, effectivement, que vous faites évoluer tout le temps et qui sont vraiment spécifiques aussi également à ton marché, etc. Toi, aujourd'hui, typiquement, alors je te pose cette question-là parce que je sais que c'est un gros enjeu pour pas mal de boîtes. En interne, à partir du moment où en fait, tu as identifié ces critères, c'est-à-dire que chaque prospect intégré dans le CRM doit avoir ces informations-là pour ton team sales. Quelqu'un qui est dédié là-dessus ou c'est quelqu'un ou c'est les sales?
Ouais, alors chez Payplug, on a la chance d'avoir du sales up et du RevOps. Donc on a quand même de l'enrichissement de data à l'intérieur du CRM. On a du CRM qui est dédoublonné, qui est cleané. Et en plus, comme on vient du mass market, on a un CRM avec une très très grosse base. Donc c'est hyper important. Mais par contre, Moi, j'essaye de vraiment de responsabiliser les commerciaux et qu'on parle de team lead, qu'on parle de sales exec ou qu'on parle de SDR, on s'en fiche totalement du niveau de seniorité, de l'intitulé du rôle et de la responsabilité. Moi, j'essaye vraiment de les responsabiliser sur ce compte, c'est toi qui es en train de le travailler. Donc, en fait, c'est toi qui es garant de la mise à jour de telle fiche de contact ou de tel élément sur le deal. Et là, je vais potentiellement arriver dans la phase où je bloque la création d'un contact ou la création d'un deal si ces champs ne sont pas remplis. Je l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je pense qu'on a besoin de passer à une étape supérieure. Ouais. Je pense que globalement, c'est hyper important de responsabiliser les équipes sans les infantiliser. Mais parce qu'en fait, un deal qui est gagné ou un deal qui est perdu, si on a besoin de se replonger dedans 3, 4, 6 mois, 2 ans plus tard, si on n'a pas les infos, et c'est utopique de penser que tout ce qui est dans la tête du commercial va pouvoir ressortir.
D'accord. Alors, justement, tu as parlé de la partie critères, etc. Bon, ouais. On parle beaucoup d'intent data, des signaux d'affaires qui te permettent de te dire, comme ouais. Tu disais au départ, en vrai, tout le monde pourrait être potentiellement des cibles, mais il me faut des signaux, etc. Je te pose des questions parce qu'il y a un peu un débat parfois entre sales, entre geek sales, en vrai, d'une certaine manière, de dire, c'est un peu surcoté, parce qu'au final, on peut louper en fait des opportunités. D'autres qui disent justement, non, au contraire, en fait, on perd beaucoup trop de temps et on épuise des équipes commerciales sur des prospects sur lesquels il n'y a pas suffisamment d'informations, suffisamment de signaux d'affaires. C'est quoi, toi, ta perception?
C'est une très bonne question. Je me suis vraiment très souvent retrouvée au cœur de ce débat. Je pense qu'il faut y associer quelque chose à l'intent data, comme on l'appelle là. C'est le segment de marché sur lequel tu travailles. En fait, l'intent data sur de l'enterprise, quand t'es un enterprise account executive ou enterprise sales director, on appelle ça comme on veut, mais concrètement, tu vas aller bosser sur 3 comptes par an issus du CAC 40. En fait, moi, l'intent data, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, je pense que ça passe beaucoup plus par de la map de compte, la capacité à aller trouver des champions, des bons relais de croissance à l'intérieur d'un compte, et ce, peu importe les signaux que le marché te renvoie et que tous les outils que tu pourras mettre en place te renvoient. Une fois qu'on isole ça, pour moi, les comptes vraiment enterprise, dans ce sens granularisation et détail, dans ce sens-là du terme, une fois que ça, tu le mets de côté, je pense que l'intent data, ça a beaucoup de sens sur le mass market et sur le mid-market. En fait, des segments de marché où il y a énormément d'entreprises et sur lesquels il va falloir faire des premiers tris à l'entrée pour justement pas épuiser les équipes commerciales. Et après, l'intent data, c'est comme tout. C'est, en fait, si t'achètes l'intégralité des outils du marché et que tu prends SimilarWeb plus tes 5 concurrents, tu vas te perdre parce que tu vas trouver tout et son contraire. Du coup, l'intent data, pour que ça ait du sens et que ça ait un impact sur les équipes commerciales, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut laisser du temps au temps et mettre en place des process, des outils et les assesser et les évaluer en permanence au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et une fois par trimestre, se faire une prise de recul et se dire, OK, est-ce que mon taux de conversion, il a augmenté? Est-ce que j'ai pris plus de rendez-vous? Est-ce que sur ces rendez-vous, j'ai créé plus de deals? Et enfin, tu vois, le mesurer en fonction des indicateurs et des cycles que t'as. Mais pour moi, c'est vraiment associé au segment de marché sur lequel tu bosses et la vélocité que tu veux aussi associer à un deal. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des commerciaux qui vont me rentrer 2 dossiers par trimestre et des commerciaux qui vont m'en rentrer 15 parce qu'ils sont pas sur les mêmes tailles de compte, ils sont pas sur les mêmes segments de marché et ils vendent pas exactement les mêmes produits. Donc nécessairement, ils font pas du tout la même utilisation de ces signaux et de ces détections d'opportunités. En revanche, je pense que c'est hyper pertinent, quoi qu'il arrive, d'assesser de manière régulière un peu sa base et les deals sur lesquels on travaille, que ça ait servi de critère à l'entrée au moment de la prospection ou pas, parce que en ce moment, bah, qui plus est quand tu bosses dans le retail avec des annonceurs, bon, y a un sujet d'inflation et un contexte économique qui est plutôt hyper tendu. Du coup, t'es pas à l'abri de signer un client et qu'en fait, ils seront en redressement judiciaire 2 mois plus tard. Est-ce que tu aurais pu le voir si tu avais un petit peu plus fait d'efforts sur complètement, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu un mix de tout ça, mais évidemment, quand tu es sur des sujets d'équipe commerciale un peu large, quand tu es sur des sujets de nombre de deals que tu dois rentrer par mois un peu conséquent, évidemment que ça a du sens, mais ça a du sens si c'est bien maîtrisé. Et acheter un outil pour acheter un outil et parler avec des gens pour parler avec des gens, si tu sais pas ce que tu en fais derrière, pour moi, zéro intérêt.
Très cool. Bah, en tout cas, merci pour ton point de vue et je partage énormément de ce que tu as dit. Du coup, toi, aujourd'hui, les canaux d'acquisition en fait, chez Peplug, c'est ouais. Quoi en fait côté sales? Vous êtes mono-canal, multicanal, et si multicanal, vous utilisez quoi aujourd'hui?
Alors, chez Peplug, on a une grosse particularité et moi, c'est la première fois que... Moi, je viens d'un monde où je n'ai fait que de l'outbound, hein, Peplug. Je ne connais pas le concept de lead entrant, quel qu'en soit son canal de génération, parce que je viens d'un monde où j'ai surtout travaillé sur des comptes enterprise. Donc, en fait, t'as beau avoir un très gros cabinet de service qui te dit, ah, il y a peut-être une opportunité chez ce très gros constructeur automobile. Dans les faits, si tu vas pas creuser, si tu vas pas qualifier, si tu vas pas championniser, il se passe rien. Chez Peplug, c'est un petit peu différent. Comme c'est une boîte qui est vraiment issue du e-commerce, il y a plusieurs canaux d'acquisition qui sont en fait qui reposent sur une démarche partenariale, rémunérée, hein. Mais du coup, on a un très gros vivier d'agences de développement web qui sont des gros fournisseurs de leads pour nous, qui représentent à peu près 30% de notre newbies. On a également un actionnaire qui est une très grosse banque. Donc, on travaille main dans la main et on a une logique de partenariat bancaire. Et puis, un des gros canaux d'acquisition, c'est effectivement de la chasse. La particularité de ce canal d'acquisition, c'est qu'il est assez récent chez nous. En fait, c'est terrible, mais on fait partie de ces boîtes qui ont vraiment bénéficié de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, parce qu'il y a eu un très gros boom du e-commerce, qui est notre cœur de marché historique. Donc, on a été habitués à avoir énormément de demandes entrantes. Donc, finalement, les stratégies de chasse, elles datent de 2-3 ans grand maximum sur une entreprise qui a été créée en 2012. Donc, tu vois, c'est assez récent. Et donc là, du coup, bah, les canaux d'acquisition, ils vont être multiples. C'est LinkedIn, cold call, email un petit peu et event. On a une très grosse stratégie event parce que je le disais un petit peu en intro tout à l'heure, mais le paiement c'est hyper compétitif. Donc en fait, si t'es pas visible et si t'es pas là pour capter la bonne opportunité au bon moment, c'est compliqué. Encore faut-il faire les bons follow-up derrière. Alors moi, je crois beaucoup aussi à autre chose, c'est aussi la mixité de ces différents canaux d'acquisition. En fait, aujourd'hui, sur les comptes, alors sur des retailers de taille intermédiaire, peut-être pas sur le mass market, mais à partir de quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, t'as aussi une logique d'influence d'un canal d'acquisition par un autre. Pour prendre un exemple très concret, on a commencé à collaborer avec Café Coton, qui est un retailer qui vend des chemises, qui est un réseau
Ah
retail et
oui.
un site internet,
Très très bien.
voilà. En Q4 dernier, si je dis pas de bêtises, c'est un client qui est déjà chez nous qui leur a parlé de nous, à partir de la recommandation. Ensuite, ça arrive qu'ils font une demande sur notre site internet. T'es attribué à un commercial grand compte, donc là, t'as une vraie logique de vélocité qui soit rappelée en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour s'assurer de bien qualifier le besoin. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à qualifier. Donc, en termes de cycle de vente, tu repars vraiment sur un process de chasse avec une multiplicité d'interlocuteurs. Et en fait, au sein de l'environnement technique du retailer, bah, il y a aussi des logiciels de caisse, des mainteneurs, des prestataires de services ou des vendeurs qui sont déjà positionnés sur le compte avec lesquels il va falloir parler. Du coup, c'est vraiment une logique d'influence multicanale sur un même deal. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que ce deal, c'est de l'inbound ou c'est de l'outbound? Je sais pas
Pas
vraiment,
tout
mais ce
ça.
que je sais, c'est que c'est un traitement de la multiplicité de ces canaux. Et ça, franchement, moi, je l'observe de plus en plus. C'est qu'en fait, quel que soit le canal et le canal et la source initiale, la vraie force d'une boîte, c'est la capacité de capitaliser sur les différents partenaires et du coup sur l'influence qu'ils vont pouvoir avoir sur ton deal à la fin. Et en fait, aujourd'hui, au regard des enjeux omnicanaux des retailers, en vrai, tu fais des deals multicanaux, c'est-à-dire que tu dois faire appel à différents partenaires et différentes sources initiales pour pouvoir activer ton closing à la fin.
Ouais, du coup, ça sert à rien d'aller sur ces sujets d'attribution. En fait, c'est un tout qui fait que tu arrives à
Ouais,
finalement.
complètement.
Après, vous avez quand même une culture de.
Ouais.
Bon, c'est un mot qu'on utilise pas mal plus aux États-Unis qu'en France. Mais en fait, aujourd'hui, vous faites de la outbound, de ce qu'on appelle du nearbound. Vous avez une vraie logique partenariale qui vous emmène
Ouais.
énormément de leads. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Et surtout, voilà, il faut convertir ces leads, etc. Vous faites voilà inbound, nearbound et outbound. Vous avez vraiment les trois, ce qui vous donne quand même une force de frappe
Ouais.
assez intéressante. Ok,
Et alors,
sur
je
les quatre.
complète quand même
Ah
un
bon.
truc, c'est,
Ouais.
pardon, il faut vraiment s'astreindre en revanche à tout lister. Enfin, tu vois, je sais que nous, dans notre CRM, on a trois niveaux de source. Au-delà du canal d'acquisition initial, on s'astreint à noter les différentes influences qui ont pu exister sur un deal pour pouvoir aussi les mesurer et comprendre l'impact d'un partenaire A par rapport à un partenaire B en fonction du canal initial qui est l'inbound ou l'outbound. C'est des
Ouais.
choses qu'il faut quand même savoir quantifier et mesurer à un moment donné. Et ça, en vrai, il n'y a pas de secret à part l'enrichissement du CRM. Il y a mille solutions.
Il y a pas mille solutions. Du coup, je vais finir en fait sur la prospection avec du coup toujours dans cette logique de ton playbook de vente.
Ouais.
Notamment, on va se concentrer plus sur la outbound, sur LinkedIn, le cold call et que tu faisais un peu de cold email. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour justement aider en fait tes sales à faire en sorte de d'avoir les bons messages et d'avoir les bonnes approches parce que c'est principalement là où le bât blesse hein, aujourd'hui dans le retour. Comment tu organises ça? Comment tu travailles ça avec tes équipes de telle sorte en fait que ce soit vraiment appliqué, que je pense autant en termes de messages qu'en termes d'intensité aussi dans le faire, parce que parfois tu peux avoir des gens qui disent oui, j'ai fait du call mais j'en ai pas fait quoi.
Je peux pas te garantir que tout ce que je vais te dire est parfaitement appliqué sur 100%
Ouais,
des ressources de mon équipe.
ça
Voilà.
c'est la vie de tous les directeurs commerciaux je pense à un
Peut-être que
moment.
s'ils m'écoutent, ils vont bien se marrer en écoutant ce podcast, ça n'en fait rien. Non, en revanche, ce qui est sûr, c'est que comme nous, on a une diversité de produits, à la fois des produits pour du commerce en ligne, comme pour du commerce en magasin et sur des segments de marché différents. Donc, on fait des go-to-market, c'est-à-dire qu'on fait des go-to-market, une espèce de stratégie globale associée à chacun de ces segments et à chacune de ces typologies de produits. Ce go-to-market, il est décomposé avec les commerciaux qui sont en charge d'une verticale ou d'un segment de marché ou d'un type de produit en particulier, et ils prennent en compte la distinction de personnel, la distinction de message au sens problématique du terme. Un directeur financier ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'un directeur retail. C'est des gens qui ont des enjeux très différents au sein de l'organisation. Évidemment, à la fin, on a tous envie de les closer, mais en fait, aujourd'hui, notre produit revêt tellement de fonctionnalités et tellement de possibilités que si tu te mets à dérouler une liste exhaustive de fonctionnalités, tu vas juste te faire comparer à ton concurrent et potentiellement tu vas être moins bon à la fin. Donc en fait, pour avoir le bon message, il s'agit de dire un directeur financier a plutôt des problèmes de réconciliation comptable et je vais l'accompagner sur ce sujet. Un directeur e-commerce a des problèmes de conversion et je suis capable de lui délivrer ce bon message. Un directeur retail a un problème de connexion de son logiciel de caisse à son TPE et je vais être capable de lui apporter cette solution de connexion-là. Donc c'est vraiment le bon message qui répond à la bonne problématique de l'interlocuteur. Ça sert à rien de poncer un fichier, encore une fois, de 100 directeurs financiers pour leur parler de e-commerce. Et ils ont bien raison de s'en moquer parce que c'est pas leur problème. En fait, pour pas épuiser les équipes, c'est pas tant leur faire apprendre le listing exhaustif de toutes les fonctionnalités du produit, mais c'est plutôt de les équiper avec la bonne réponse au problème de l'interlocuteur à qui ils vont s'adresser. Et ça, ça veut dire spécialiser les commerciaux. C'est-à-dire que moi, j'ai des commerciaux qui travaillent plutôt que sur des enjeux retail et j'ai des commerciaux qui travaillent plutôt que sur des enjeux e-commerce. Et donc, toute l'organisation. Lead, sales, SDR qui est associé. Donc, c'est vraiment la professionnalisation et l'expertise qui va faire l'énorme différence, quoi.
Ok, c'est très intéressant. C'est quoi les éléments que tu leur donnes pour pouvoir les aiguiller? Parce que, évidemment, la difficulté quand on est directeur commercial, c'est de ne pas être derrière tout le temps ses équipes, ses sales managers, ouais, ou peu importe, pour savoir si tel volume de call ou tel volume de, ouais, de conversation ont été déclenchés sur LinkedIn. Voilà, c'est quoi un peu globalement les choses que tu donnes pour que, enfin, les inputs soient réalisés, quoi?
Moi, je fais pas mal de coaching. En fait, je vais donner effectivement un nombre d'appels potentiels pour atterrir sur un certain nombre de rendez-vous à la fin de la semaine. Tu vois, je pense que 250 call, ça te permet d'atterrir sur à peu près 4-5 rendez-vous par semaine. C'est là-dessus qu'on va mesurer typiquement les SDR. Les commerciaux sont pas mesurés sur le nombre des rendez-vous, mais je pense qu'un commercial qui chasse plus n'est plus un commercial. Donc, je les inclus totalement à ces rituels. Et ça, encore une fois, tout niveau de seniorité confondu. Encore la semaine dernière, on s'est fait un très gros challenge de prospection pendant 48 heures. Mon manager, qui est directeur général de la BU, et moi, on a aussi participé à ce challenge. Donc en fait, t'as une vraie notion de lead by example et de toujours remettre les mains dans le cambouis. Est-ce que j'ai gagné ce challenge de prospection? Non, pas du tout, toute la journée. Mais du coup, c'est cool de se remettre aussi sur le terrain, encore une fois, pour mettre à jour les objections auxquelles tu vas être confronté. Et en vrai, coaching, régularité, rituel, session de call-call commune, tout niveau de seniorité, tout niveau de maturité confondu, ben, pour moi, c'est un peu la clé. Et alors, je sais que c'est très différent d'un profil à un autre. Moi, je suis vraiment pas de l'école flicage, c'est-à-dire que je peux être très directive et très autoritaire si ça m'aperçoit qu'on se moque de moi ou que quelque chose n'est pas réalisé. En revanche, je pars du principe que on se fait confiance dès le début et ensuite la confiance, ça se gagne. Donc, on met des bases au début et si ça fonctionne bien, il n'y a aucune raison que je vienne friquer, micromanager. Et en fait, si t'as passé 199 calls au lieu de 210 et si t'en as passé 250 au lieu de 150, ça va pas avoir une influence sur mon niveau managériel. Moi, ce qui m'importe à la fin, c'est le nombre de rendez-vous. Et que chacun trouve son style aussi. C'est-à-dire que j'ai vu passer pas mal de commerciaux et de SDR. T'as des commerciaux qui vont prendre la matinée à écrire un mail, mais ils sont sûrs que ce mail va trouver une réponse et va choper un rendez-vous d'air. Et en fait, c'est ta technique plutôt que de passer 30 rendez-vous. Moi, ça me va bien. Il y a un vrai enjeu de personnalisation aussi de tous les éléments et de toutes les métriques que je mets à disposition comme base. Je vais vachement driver, tu vois, ce niveau de personnalisation. Et ce, à tous les niveaux. Il y a 2 semaines, j'ai refait un peu tout le nouveau pitch commercial parce que notre produit évolue, etc. Donc moi, je mets à disposition un script, une nouvelle présentation, une version 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je m'enregistre, je le pitch à l'intégralité de la BU. Mais en fait, derrière, si tu as envie de changer les exemples avec... tu vois, moi, je prends des exemples de la mode, de shopping, si tu as envie de l'adapter à de la course à pied, à du voyage, ça me va très bien. Je vais vraiment pousser cette personnalisation et cette autonomie-là.
Trop bien. On va laisser un peu la prospection de côté. Quand on a échangé, tu m'as dit qu'effectivement, en ce moment, vous aviez quand même un enjeu de changement de cible, en fait, de changement, ouais, de segment. Et donc, du coup, on arrive un peu plus à de la vente complexe. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Forcément, ce qui change beaucoup de choses, hein, dans ton playbook, j'imagine. Justement, comment tu gères ce changement, en fait, d'un passage d'une cible à une autre? Ouais. Comment tu gères, ouais, en fait, en termes de méthodologie? Comment t'as géré la transition? Parce que c'est souvent quelque chose qui est compliqué, je trouve, pour les boîtes qui vont se dire « Ah ouais, on a eu une petite possibilité au grand groupe. Allez, on va tous aller sur les grands groupes sans construire ce truc-là. » Je trouve ça intéressant d'avoir un peu une méthode. Ouais.
Alors déjà, pour moi, c'est deux choses qui vont continuer de coexister. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de jeter à la poubelle tout ce qu'on a très bien fait par le PC et d'arrêter de le faire. On a aujourd'hui des commerciaux qui tournent très bien sur du mass market ou sur du début de mid-market. Si tu veux, je vais pas leur demander de faire du grand compte du jour au lendemain et de tout changer dans leur vie. Donc c'est vraiment une notion de enrichissement et de structuration et de créer des postes, en fait, c'est des expertises supplémentaires au sein de l'organisation. Donc je vais garder ma base et c'est toujours la même méthodologie, mais par contre je vais venir l'enrichir. Typiquement, mon médic se transforme en medpic, c'est-à-dire que je viens rajouter un P qui est en fait le P de paper process, qui est quelque chose que tu n'as absolument pas dans des organisations de taille moindre, mais que par contre, tu vas retrouver dans des groupes qui commencent à faire quelques dizaines de millions parce que tu as un passage par les achats, parce que tu as un passage par la compliance, par la conformité, etc. Donc, c'est vraiment de l'enrichissement de ce qui existe déjà dans ton playbook et auquel tu viens rajouter des étapes supplémentaires. Donc moi, mon playbook, la manière dont je l'ai fait évoluer, c'est au travers de ce que j'appelle l'engagement. En fait, cette timeline que tu vas présenter à ton prospect après un R1 ou un R2, le premier, c'était vraiment que de la qualif, c'était une vingtaine ou une trentaine de minutes, c'est vraiment rajouter des étapes pour être force de proposition et expliquer au client que tu vas l'engager sur une démarche, sur un cycle de vente. Ça va être hyper honnête, en fait. C'est à la fin, moi, je veux que tu me donnes un go-no-go. Je vais investir tout ça pour toi, mais par contre, je veux que tu me donnes un go-no-go. Et pour ça, je vais avoir besoin que tu me files des informations pour que moi, je puisse bosser de mon côté et t'en faire une restitution. Et donc là, tu rajoutes des étapes. Alors, tu rajoutes plus ou moins d'étapes en fonction de la taille de ton compte, mais du coup, ça peut être des ateliers de faisabilité technique. Sur des comptes assez conséquents, tu vas avoir besoin de produire des schémas d'architecture. Donc moi, au-delà du playbook, j'ai aussi enrichi les équipes commerciales d'un nouveau profil qui est un avant-vente technique, chose qu'on n'avait pas du tout avant, pour soulager les équipes et pas les mettre dans une configuration où ils doivent être hyper experts de leur produit. Évidemment, un commercial qui est expert de son produit, ça a du sens sur des tas d'aspects. La réalité, c'est qu'on ne peut pas tous être des experts technologiques, on n'est pas tous des ingés, on n'a pas tous un background IT. Donc en fait, leur mettre à disposition un avant-vente technique qui est en charge de ça et dont c'est la responsabilité, c'est hyper précieux. Ça permet de rajouter une étape dans le cycle de vente. Et c'est vraiment cette notion d'engagement mutuel avec le prospect qui fait qu'à la fin, potentiellement, ça devient ton client. Donc, c'est vraiment intégrer cette notion de modèle d'engagement à l'intérieur des échanges qui a vraiment fait la différence et qui a été l'enrichissement du playbook ces derniers mois quant à la montée sur des comptes de taille un petit peu plus conséquente, là où, historiquement, on vient d'un monde où on passe 3 appels et en 3 semaines maximum, ton deal, il est closé, ton offre, elle est signée, elle est enregistrée. Et le tout en faisant coexister ces deux choses, tu vois, au sein d'une même organisation commerciale.
Et là, du coup, là, en fait, sur ta partie vente complexe, le vente, il est de combien après 6 mois, 3 mois?
Ouais, c'est ça, tu vas être entre 3 et 5 mois à peu près.
Ok, je sais qu'on en a parlé rapidement, de méthodologie de vente rapidement. Il y a cette notion-là d'engager ton prospect. Est-ce que tu as une méthodologie un peu phare, speed, médic, autre, oui. ou un mélange un peu de tout ça? Comment tu fais justement pour pouvoir... Parce que dans les grosses organisations, ce qui est le plus difficile, c'est... Alors, tu as raison de mettre des étapes qui permettent d'engager, d'avoir fait intervenir un profil avant-vente technique. Mais comment tu fais pour faire en sorte de faire en sorte que la décision se prenne vite, pas trop dans le temps? C'est quoi les recommandations que tu donnes en fait à tes sales?
Moi, je suis de l'école médic, mais parce que j'ai été picousée au médic, du coup, je sais même pas si je me suis réellement posé la question de ces trois, quatre dernières années si je devais changer. Je l'ai pris comme base. En fait, j'ai toujours bossé avec ça. Du coup, je suis à l'aise avec ça et je trouve que ça correspond à quand même pas mal de configurations, donc ça me va bien. Et comme je le disais, le médic, il s'adapte aussi. En fait, tu peux avoir 2C en fonction de si tu veux de la compétition ou pas. Tu peux avoir un P si tu veux rajouter le paper process. C'est un outil qui est assez modulable et qui peut avoir des niveaux de complexité assez différents. Donc ça me va bien. Et d'un point de vue vélocité et technique d'un deal, moi, je crois beaucoup au sujet qui est la championnisation, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable d'avoir du pouvoir et de l'influence et de parler de ta solution en interne, même quand t'es pas là. Donc je vais vachement challenger les équipes sur en fait, c'est qui ton champion ou ta championne, tes champions aujourd'hui dans l'organisation. Est-ce que t'es sûr que c'est un champion et que c'est pas en fait un coach? Parce que ouais, il te file des infos, mais en fait, il en fait pas grand-chose derrière non plus et ils vont pas ta solution. C'est vraiment avoir des interlocuteurs au sein des organisations qui vont être capables de te donner du réalisme. En fait, une des raisons pour lesquelles beaucoup de commerciaux décalent des deals de mois en mois ou de trimestre en trimestre avec des close dates qui sont un peu modulables dans le temps, c'est parce qu'il n'y a aucune forme de réalisme et que en fait tu pars avec plein d'assumptions et de choses que tu penses savoir, mais en fait tu ne l'as jamais vérifié. Et la seule manière de vérifier, c'est de poser la question à quelqu'un. Sauf que pour être légitime de poser la question à quelqu'un, il faut avoir un niveau de connaissance de cette personne qui est suffisant et avoir construit une confiance. En fait, c'est ni plus ni moins comme avec un collaborateur dans une organisation. Donc pour ça, il faut que tu sois capable de championniser des interlocuteurs. Et en qui plus est, ces champions, potentiellement, un jour, ils changent de boîte. Donc en fait, tu as tout intérêt à bien fonctionner avec eux, qu'à la fin, tu signes ou pas le deal, en fait. Bien fonctionner avec eux, parce que c'est des gens qui vont être capables de te dire « Non, en fait, là, Camille, 31 mars, mais tu rêves, il faut encore rencontrer la direction financière, la direction achat ou que sais-je. » Non, je pense que c'est plus réaliste qu'on parte à mi-mai. Mais par contre, je vais t'expliquer quelles sont toutes les étapes que tu vas devoir franchir jusqu'à mi-mai. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Encore une fois, sur des cycles de vente très complexes, sinon, enfin, tu vois, il n'y a pas de, recettes miracles sur des îles un peu plus petites où tu veux de la vélocité. C'est de la relance et c'est le bon process avec les bonnes séquences de relance, les bons appels au bon moment. Voilà, encore une fois, ça dépend des tailles de compte, mais dans le cadre du changement de cible, c'est vraiment la capacité de se créer des champions, assumer qu'on est nouveau aussi sur ce segment de marché. En fait, un client a tout intérêt avec le plus gros client d'une boîte que le plus petit client d'une boîte, chose avec lequel il faut être super à l'aise, se créer des champions pour avoir une vision très réaliste de ta timeline et être sûr d'avoir identifié toutes les étapes à franchir pour atterrir sur un closing à un instant T, quoi.
Trop bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci pour ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle justement. Là, tu m'as donné pas mal d'éléments. Tu m'as dit au départ que tu formais beaucoup tes équipes. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, ça prend quelle forme, en fait, justement, ce changement de cible en termes de formation? Parce que quand tu t'en parles, ça a l'air d'être super championnisé, le compte, etc. Mais en réalité, c'est plus difficile. Comment tu fais pour qu'ils posent les bonnes questions, pour vérifier qu'ils les posent, leur donner des éléments? C'est souvent ce qui est difficile, en fait, de savoir à quel moment être peut-être parfois un peu plus agressif dans la vente, un peu plus en recul. C'est tout ça où ça demande de l'expérience que tu as. Mais parfois, tes équipes ne l'ont pas forcément, il faut leur transmettre. C'est quoi tes outils aujourd'hui?
Ouais, alors beaucoup l'enregistrement associé à des rituels. Je suis dans un monde où tout est enregistré, tout est transparent, tout est écrit. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout chez Peplug. Une des valeurs historiques de Peplug, c'est le tribal knowledge. Donc, c'est la capacité à aller chercher l'information où elle se trouve dans l'organisation sans forcément passer par une étape d'écrit. Je pense que c'est quelque chose qui peut très bien marcher sur certaines structures de boîte. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est 350 et qu'on a été racheté par un gros groupe bancaire. Donc, est-ce que ça marche toujours sur toutes les étapes du cycle de vente? Je pense pas. Donc, moi, c'est vrai que l'enregistrement, j'y crois beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut désacraliser. C'est pas grave. On dit tous des bêtises. Et moi, la première, je suis sûre que j'ai fait des rendez-vous. Et si on va dans mon Mojo, qui est l'outil qu'on utilise, je suis sûre qu'on peut trouver des petites pépites ces derniers mois et sur mes derniers records. Pas de sujet. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut désacraliser, qu'il faut appliquer à tous les niveaux de l'équipe commerciale. Et pas juste à une position. Le fait d'enregistrer, et qui plus est, quand tu passes par des outils comme Mojo, alors, il y en existe d'autres sur le marché, moi j'utilise Mojo, mais peu importe, c'est que ça te fait des transcripts, et maintenant avec toutes les avancées d'un point de vue intelligence artificielle, ça te fait même des notes de synthèse, ça te fait de l'enrichissement de CA magique.
C'est très,
quoi.
Très cool.
Enfin, ça te fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup,
beaucoup de temps.
Ça c'est une base, c'est-à-dire que c'est un outil que tu mets à disposition, maintenant si t'en fais rien derrière, il te sert pas à grand-chose. Donc, rituel de réécoute par pair, avec ton manager, croisé entre différentes équipes, tu dois réécouter entre 1 et 3 calls par semaine et faire un feedback. Donc, on a mis en place des templates de review et de feedback directement à l'intérieur de Mojo. Moi, j'aime beaucoup un format qui s'appelle le One Lot Deal Analysis. C'est un format qui me suit depuis 8 ans. Je pense qu'à l'époque, c'était chez Tout Camp Co qu'on a fait faire la première fois. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, désacraliser le fait que c'est trop cool de gagner des deals et c'est pas grave d'en perdre. Par contre, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Donc, une fois par mois, en équipe, alors avec des prismes et des spécificités particulières en fonction des pratiques de chacun. Mais en tout cas, se faire des focus sur des deals gagnés, des deals perdus, en comprendre les raisons, se faire des réécoutes de temps de call, encore une fois, sur des deals gagnés comme sur des deals perdus, servir comme outil de valorisation des équipes, c'est-à-dire que des fois, t'as des super verbatims de clients, c'est des choses qui peuvent être diffusées dans l'organisation, et vraiment s'en servir comme base d'amélioration et de coaching. Et à partir de là, tu peux à la fois faire du collectif et à la fois faire du format individuel. Parce qu'en fait, tu vas pas du tout avoir les mêmes séquences de coaching et les mêmes plans de développement sur un SDR qui a envie de passer biz dev à plus 12-24 mois que sur quelqu'un qui est team lead sur du mass market et qui a peut-être envie d'évoluer, tu vois, sur du marché de taille intermédiaire. Donc, c'est vraiment cette notion collectif. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on en retire pour l'équipe? Et derrière, qu'est-ce que je mets en place comme plan de développement individuel pour être dans une logique d'amélioration permanente?
Trop stylé. Ok, j'aurais plein d'autres questions, mais autrement, on pourra pas aller vers la suite. Bon, en tout cas, on voit bien que tout ce que tu dis, là, en fait, ça tient aussi beaucoup sur le people, hein, d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Aujourd'hui, je sais que tu as du coup une équipe qui est assez mixte, avec des niveaux d'expérience différents, senior, junior. Pour l'avoir fait, en fait, je sais que c'est assez complexe de pouvoir, en tout cas, mettre des niveaux de management, justement, des niveaux de coaching et des niveaux de, je sais pas, ouais, de suivi, si tu veux, pas de tracking, mais de suivi différent. Parce qu'aujourd'hui, on a des juniors qui ont beaucoup plus besoin de support, de besoin d'écoute, etc. Et puis des seniors qui ont un peu moins besoin, mais quand même, la vente évolue beaucoup, très vite. Et donc, du coup, en fait, des choses qui pouvaient être valables il y a 3 ans dans une organisation, même si tu étais le meilleur des sales, ça l'est plus aujourd'hui. Il faut savoir beaucoup bouger. Comment tu gères, en fait, cette complexité-là, en fait, des différentes équipes, notamment dans tes instances
Ouais, déjà, il y a un sujet qui est le middle management. Si on rétro-pédale un tout petit peu, quand je suis arrivée il y a un an et demi chez Peplug, j'ai récupéré une dizaine de personnes en direct. C'est pas du tout gérable, pour plein de raisons. Enfin, tu vois, pour des raisons de temps, pour des raisons d'avoir le même niveau d'énergie pour pour tout le monde, d'avoir des échanges aussi qualitatifs pour les uns ou pour les autres, des temps de qualité comme j'aime à les appeler.
Je vais te couper 2 minutes. Pour toi, c'est combien de personnes pour une personne de management?
5-6, grand max. Bah, je dis 5-6 parce que si je me dis 4-5, je me tire ma propre balle dans mon propre pied. D'accord. Mais ouais, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes échelles. Après, je pense que c'est différent, tu vois, sur des instances de direction, etc. Mais sur du commercial, ouais. Alors, coupons la poire en 2-5. Il y avait ce sujet du direct report qui était ingérable, et direct report avec des niveaux de seniorité hyper différents. C'est-à-dire que j'avais du SDR comme j'avais du commercial plutôt senior qui était dans la boîte depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc, un des premiers trucs sur lesquels j'ai bossé, c'était un peu mon organisation. C'est quel middle manager je vais pouvoir mettre en place, qui je vais faire répondre à qui, et à qui je vais pouvoir aussi déléguer. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles tu mets en place du middle management, c'est parce que c'est des gens qui sont autonomes, avec lesquels il y a une relation de confiance, et à qui tu vas pouvoir déléguer des sujets X ou Y. Déjà ça m'a soulagé et dégagé énormément de temps pour ensuite adresser différents sujets et mettre à disposition les bons contenus à chacun de ces middle managers qui ont en fait des métiers très différents. Certains ont des SDR, d'autres n'ont pas. Certains sont sur la France, certains sont sur l'Italie. Enfin, tu vois, il y a vraiment des expertises distinctes. Et ensuite, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est une fois que tu as commencé à bosser avec les équipes depuis quelques mois, c'est mettre en place des plans de développement qui soient personnalisés. Tu vas pas du tout travailler sur les mêmes hard et sur les mêmes soft skills avec un collaborateur A et un collaborateur B. Tu vois, une Eva que j'ai récupérée dans mes équipes, mon enjeu, c'était de la faire passer de SDR à business. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle était SDR. Plein de signaux très forts de soft skills, d'écoute active, de coachabilité, qui me permettaient de penser que ça pouvait être une très bonne tête et qu'on pouvait la mettre sur ce plan de carrière. Et tu vas pas du tout bosser pareil avec un Mathieu ou un Maxime qui sont tous les deux aujourd'hui des team leads dans mes équipes et qui sont plutôt des rôles et des responsabilités de commerciaux seniors. Et avec lesquels on va plutôt bosser sur de l'enrichissement de qualifications, de championnisation au service du closing et qui sont sur des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est vraiment des plans de développement personnalisés et les suivis dans le temps, on s'en fiche du format, que ce soit un document Excel ou le meilleur outil du marché. Chez Peuplug, on a la chance d'être super bien équipé de toute la suite Luca, mais ça marche avec un Google Sheet ou avec un Google Word, on s'en fiche. Mais c'est vraiment lister les critères hard et soft skills sur lesquels tu vas vouloir bosser avec une personne. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, il faut pouvoir déléguer. Et donc, il faut avoir des lignes managériales qui soient suffisamment bien organisées et agiles d'un point de vue management au quotidien, quoi.
Ces espèces de scorecard que tu fais en disant, c'est sur tel ou tel sujet avec tel ou tel.
Exactement. Sales. Je le fais au semestre, les plans de dev. Les plans de dev, je les fais au semestre. Et après, tu peux les modifier au trimestre, mais au semestre, ouais.
Ok. On avait parlé ça en off et j'avais besoin d'en parler parce qu'en fait, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est la nouvelle génération qui arrive, c'est la Gen Z, qui est assez particulière, on va dire comme ça. Notamment à manager, en règle générale, qui a un mindset complètement différent, je dirais, des autres générations. On dit ça tout le temps, mais là, personnellement, je trouve qu'il y a une vraie rupture. Et donc, du coup, en termes de commerciaux, c'est assez compliqué, je trouve, de les manager parce que tout ce qu'on a pu apprendre, nous, dans notre manière de vendre, etc., ne marche pas super bien en termes de suivi, en termes de follow-up, etc. Il faut être beaucoup plus souple. Tu as ce type de profil. Comment tu les gères et tes hacks un petit peu pour pouvoir faire en sorte de les embarquer, parce que c'est des gens qui peuvent partir très vite, qui à la moindre contrariété peuvent dire c'est fini. Donc c'est des profils qui sont très difficiles à fidéliser.
Ouais, et c'est une super bonne question parce que ça fait vraiment partie des sujets auxquels je me suis frottée en 2023. Et si Pierre écoute ce podcast, grande dédicace à notre conversation d'il y a 6 mois dans la salle Faster, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est des profils, et pourtant je n'ai pas le sentiment d'être très vieille, mais c'est des profils pour qui le boulot est plus du tout quelque chose de central et de prioritaires dans leur vie au quotidien, qui vont accorder beaucoup plus d'importance à l'équilibre vie pro-vie perso, et surtout à l'intérêt personnel qu'ils vont pouvoir sortir de leur vie professionnelle. Qui, je pense, à quelques années d'écart, n'est pas du tout valable pour les générations d'avant. Donc pour ça, il faut les intéresser. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à mettre un petit peu ce qui les intéresse dans leur vie perso au sein de leurs enjeux pro. Donc ça veut dire travailler sur des verticales qui leur parlent. Nous, tu vois, on bosse beaucoup dans le e-commerce, c'est aller taper du mode et accessoires si ça les intéresse plus que sport, et inversement et réciproquement. Et c'est aussi être à l'écoute de leurs bonnes pratiques. J'ai quand même l'impression d'être quelqu'un d'assez connecté, souvent sur mon téléphone. Dans les faits, il y a une multitude de réseaux sociaux dont j'ignore même l'existence qui existe. Et en fait, dire à un SDR, par exemple, ça fait 10 ans que je fais du call-call et je te dis que c'est la méthode de prospection qui fonctionne le mieux. Et en fait, t'as pas ton mot à dire sans jamais l'écouter. C'est potentiellement passer à côté d'une bonne idée de prospection ou de sourcing sur TikTok, sur Snapchat ou tout autre réseau social qui aurait du sens. Et donc, c'est vraiment réussir à trouver le bon équilibre entre ce qu'ils ont à nous apporter et ce qu'ils connaissent de leur vie, de leur génération, des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien perso, et le croiser avec nous, nos bonnes pratiques. Et sans parler de manipulation ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment se mettre dans une situation gagnante-gagnante. Moi, je vais t'apporter de la méthodologie et je vais te montrer ce que j'ai réussi à faire sur tel et tel compte. Et franchement, je pense que j'ai des choses à t'apprendre. Par contre, en fait, je suis naze sur TikTok et effectivement, toutes les marques qui ont 2 millions, 3 millions de followers que tu m'as sourcés, j'aurais jamais eu l'idée d'aller les démarcher. C'est un segment de marché que je ne connais absolument pas. Mais pour ça veut dire leur faire confiance et surtout les écouter, comprendre leurs enjeux, comprendre pourquoi le boulot, c'est pas si important, quelles sont leurs préoccupations pour réussir à les emmener dans leur vie professionnelle et que du coup, ils y trouvent de l'intérêt parce que sinon, c'est des profils qui sont hyper volatiles, qui se font sourcer sur LinkedIn par des recruteurs tous les jours.
Tout le temps.
Et donc, du coup, tu peux perdre en quelques mois et qui n'ont plus du tout cette notion de je rentre dans une boîte, j'y reste au moins 5 ans, 10 ans ou que sais-je.
Qui ont une stratégie même de professionnelle. Parfois, tu n'arrives pas forcément à comprendre trop le sens de leur carrière. Ils vont là où, en fait, ils ont envie d'aller à ce moment-là, quoi. Et justement, c'est les one-to-one, que ce soit toi ou ton équipe management, parce que tu n'as pas tout le monde en direct, c'est comment vous gérez les one-to-one avec les profils de la Gen Z, parce que traditionnellement les one-to-one c'est quelque chose de bon, généralement quand même c'est un peu une pression quoi, c'est le moment où en fait individuellement on se dit où t'en es. Oui, effectivement, on peut trouver toutes les manières de faire en sorte que c'est pas du flicage, ça reste quand même à un moment donné où une personne te rend des comptes et on est quand même sur une génération qui veut pas rendre de comptes. Comment tu fais pour leur donner envie un petit peu de faire en sorte que ce soit un moment agréable et pas conflictuel?
Alors encore une fois, t'as ce truc un peu désacralisé, c'est-à-dire que moi j'ai pas mal de rituels collectifs ou semi-collectifs, 3 fois par semaine, 15-20 minutes avec toute l'équipe commerciale, c'est plutôt moi qui parle, qui file de l'info et qui exprime mes attentes sur la semaine. Du coup, c'est pas quelque chose qu'ils vont découvrir en one-one ou en réunion plus restreinte. Ensuite, moi, avec mes mid managers, donc les personnes avec qui j'ai du direct report, 2 fois par semaine, 30 minutes, on se fait un peu un point sur les pipes et sur les avancées ou les problématiques de chacun. Donc en gros, quand j'arrive en one-one, j'ai le visu global et macro sur ce qui se passe sur le pipe et à combien on va atterrir en termes de closing dans la semaine. Du coup, déjà, ça t'enlève une pression sur les chiffres et sur les indicateurs au moment du one-one, et tu peux te consacrer sur du temps de réalité, que ce soit de granulariser un deal pour comprendre est-ce qu'il y a potentiellement des bloqueurs, ou que ce soit d'avoir 100% de bande passante pour écouter la personne, savoir comment ça va en ce moment. Et c'est plutôt une pratique que j'incite mes managers à répliquer au sein de leurs équipes, c'est-à-dire faire des points semi-collectifs avec des instances un petit peu plus réduites pour enrichir cette culture de la transparence, et on se parle de nos deals et on se parle de nos problématiques. Et pourquoi, en fait, quand t'arrives en one-one, évidemment, on a des trames. Évidemment, il y a des indicateurs qu'on suit au quotidien. Et si c'est pas préparé d'un côté comme de l'autre, ben, c'est pas le one-one le plus agréable. Mais l'objectif du one-one, c'est vraiment que ce soit un temps d'échange et d'écoute tout en restant hyper professionnel, vraiment au service du collaborateur et vraiment au service de comment il se sent dans l'organisation en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se sente mieux? Est-ce qu'il y a besoin de plus de télétravail à ce moment-là? Enfin.
Tu t'es sur un modèle toutes les semaines avec les sales?
Avec les personnes que je reporte en direct, ouais.
Ou ton équipe. Ok. Alors, du coup, t'as hyper intéressant. Je pense que malheureusement, c'est pas un réflexe, sauf pour les boîtes, je pense, qui sont hyper structurées comme Payplug, etc. C'est d'avoir ces forecasts qui sont prêts, en fait, en tout cas, d'avoir une visibilité, en fait, d'avoir des outils de pilotage qui te permettent de pouvoir avoir tes chiffres. Et que ce soit pas un moment justement où tu parles de tes chiffres avec ton équipe, etc. Ça, encore une fois, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des ops, ou c'est toi qui travaille là-dessus, ou qui met une pression du coup à ton management pour pouvoir. Il y a toujours ce problème de comment tu prépares, parce que tu peux pas avoir des chiffres si tes sales ne remplissent pas les éléments. Donc tu peux mettre la pression ce que tu veux, tu peux mettre tous les tableaux que tu veux. Si c'est pas rempli, c'est compliqué.
Beaucoup avec les ops. Honnêtement, je suis arrivée en même temps que la personne qui gère aujourd'hui le pôle Remap Sales Ops, et ça m'a sorti une énorme épine du pied, parce que du coup, ils prennent aussi de la relance auprès de commerciaux quand tu peux pas remplir les informations à leur place. Et on a automatisé énormément de remontées. J'ai énormément de dashboards personnalisés par équipe, par collaborateur ou au global. J'ai des niveaux plus qualitatifs, d'autres plus quantitatifs. Enfin, franchement, aujourd'hui, j'ai une exhaustivité d'indicateurs et de métriques qui me sont mis à disposition, que j'ai rarement eu dans d'autres organisations, et ça, c'est hyper agréable.
Le secret c'est recruter des sales, c'est vrai.
C'est le secret, mais moi c'est ce qui marche.
Ok, bah du coup on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, t'as partagé énormément de choses. Si on doit un petit peu résumer, ton playbook il évolue tout le temps, que ce soit sur la partie prospection, que ce soit sur la partie vente, mais aussi également managériale. Quels sont les outils que tu vas mettre en place aujourd'hui? Si t'as un conseil à donner à des gens qui ont toujours pas de playbook clair,
Alors
du coup, justement, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais parce que ça demanderait beaucoup trop de temps, c'est quoi les informations minimum que tu dis, voilà, au moins commencer par là pour avoir en fait quelque chose qui marche jusqu'à avoir le temps d'enrichir? Et combien de temps tu mets du coup vraiment à la louche, hein, pour pouvoir le mettre à jour? Combien de temps tu dédies
Ok, alors Pour moi, le minimum, c'est de savoir à qui tu vends ton produit, connaître ton ICP, avoir réfléchi à c'est qui vraiment ton profil de client idéal. Et à partir de là, tu peux avoir une idée de boîte qui t'en donne cinq autres basées sur leurs concurrents et te construire un réseau. Enfin, ça, pour moi, c'est vraiment le minimum. Et c'est aussi avoir un pitch que tu es capable de décliner en différents formats, que ce soit 1, 5, 15 minutes, mais le présenter de manière globale comme le présenter de manière très spécialisée en fonction de ta cible. Ça, pour moi, c'est vraiment le minimum du minimum. Et ensuite, chasser. En fait, aujourd'hui, si tu veux ne souscrire à aucun outil payant du marché, mais quand même aller chasser des gens juste en visualisant des profils LinkedIn, en les contactant, en trouvant des 06, c'est possible. Du coup, enfin, ça, pour moi, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Et moi, mon playbook, je sais pas, alors j'ai jamais fait, c'est marrant, j'ai jamais fait cet exercice de combien de temps je passais par mois ou par trimestre à le mettre à jour. Je sais pas, je pense que j'ai au moins 3-4 heures par mois qui sont associées à de l'enrichissement de playbook.
C'est énorme, en fait. En tout cas, je trouve ça énorme, mais je suis pas sûre que, tu vois, tout le monde se dit, ouais, il faudrait 3-4 jours pour mettre à jour de la donnée qui permet à mes sales de pouvoir être meilleurs, tu vois, chaque mois. Donc, en tout cas, c'est du temps. Ouais, c'est un temps important quand même. C'est cool.
Ouais, alors après c'est ventilé, tu vois, c'est
Ouais.
pas, je le fais pas en un bloc. Tu vois, là, la semaine prochaine, je vais passer 4 heures d'atelier sur deux très gros deals qu'on a et qui sont potentiellement des plus gros deals qu'on aura fait chez Plug, si ça m'en arrive au bout. Je sais que clairement, enfin, c'est quelque chose qui va me générer de la matière pour mettre à jour moi mes playbooks et les infos et le contenu que je mets à disposition des sales, c'est sûr.
Ok, nickel. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé.
Avec plaisir.
Et en tout cas, ouais, c'est hyper enrichissant. Qu'est-ce que tu as à dire, en fait, un dernier conseil pour l'année 2024? En fait, moi, je pose cette question-là, là, parce que c'est une année un peu compliquée.
Prioriser parce que c'est utopique de penser qu'on peut tout faire. Et que je suis un peu travaillomane et que je me dis qu'on peut tout faire, rentrer dans une journée, dans une semaine, dans un trimestre. Avec le peu de recul que j'ai, je pense que prioriser et se fixer des objectifs par trimestre, que ce soit du ciblage de la team, du closing, que ce soit de l'organisation, il faut apprendre à prioriser parce que tu peux pas traiter l'intégralité des sujets. Tu vois, moi, là, si je rétropédale depuis mon arrivée chez Peplug, j'ai passé 4 mois à faire de l'organisation et de la création de hiérarchie, on va dire, au sein de l'équipe commerciale et de la spécialisation. Ensuite, je suis passée sur un gros pan où, pendant 3-4 mois, j'ai travaillé sur la refonte du modèle de rémunération et sur les quotas et sur les objectifs qui étaient associés. Et là, ça fait 6 mois que je suis dans un cycle où je fais trois choses, c'est le ciblage, l'équipe et le closing. Et c'est mes trois obsessions. Mais il faut vraiment pouvoir prioriser pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est utopique de penser qu'on peut tout faire parfaitement. Mais par contre, les sujets qu'on prend en prio, de les exécuter dans la forme la plus professionnelle et la plus aboutie qu'on puisse quoi.
Eh ben super, c'est une super manière de finir. Merci beaucoup Camille pour les partages.
Merci à toi. Merci
Ciao,
pour l'invitation. Salut.
c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.